Du 27 au 31 octobre, 11 jeunes du Royan et du Vercors ont participé à un séjour proposé par Active Royan et Vertapop à La Chapelle en Vercors. Un séjour sur le thème de l'alimentation, en particulier autour du kebab. Au programme visite de fermes d'élevage paysan, atelier radio, rencontre avec le food truck Le Croquant et atelier cuisine pour préparer des kebabs du Vercors qu'ils ont partagé lors d'une soirée festive ouverte à tous. En début de semaine, Radio Royan Vercors a initié le groupe à la prise de son et aux méthodes d'interview pour qu'ils documentent leurs explorations. Vous allez écouter un extrait de leur reportage, Le kebab est dans le pré.
Alors, bon, vous choisirez quoi ? Kebab ou tacos ?
Et moi, j'aime mieux les kebabs.
Le kebab.
Kebab.
Kebab, sans aucun doute.
Kebab.
Kebab.
Mais je suis végétarienne. Alors, je mange pas de kebab.
Vous pensez pourquoi il n'y a pas de kebab dans le Royan Vercors ?
Ah, ça, je sais pas pourquoi il n'y a pas de kebab dans le Royan Vercors. Il pourrait y en avoir, hein.
Je pense que c'est culturel, que les gens n'ont pas forcément l'habitude de manger ça.
Ben, j'ai pas vraiment de réponse, parce que personne vient s'installer dans les petites régions. Voilà. Ou alors, il n'y a pas de clientèle. Hein. Parce que dans les petites régions, les gens vieillissent et ils mangent moins de kebab. C'est plus un truc de jeunes.
Ah bah si, il y en a encore. Le Croquant, il en fait encore.
Pourquoi il n'y a pas de kebab dans le Vercors ?
Peut-être qu'il faut inventer le kebab au bleu du Vercors et des choses un peu comme ça, peut-être.
Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de diaspora turque.
Ah, je sais pas exactement la raison. En tout cas, c'est dommage parce que c'est vraiment très bon et ça amène une diversité dans les plats qu'on mange.
Quelle serait votre recette idéale pour votre kebab parfait ?
Pour moi, le kebab idéal, c'est du pain maison et des bons produits.
Alors du veau plutôt que de la dinde, coupé fin, la sauce turque que je ne connais pas. Des courgettes, des aubergines, enfin les légumes du sud. Hein. Puis voilà.
C'est quoi ma cabane de rêve ?
Kebab de rêve.
Ah, alors kebab. Alors là, on va dire un kebab bio, local.
Et pour vous, ça serait quoi le kebab de rêve ? Ce que vous mettiez dedans ?
Alors ce serait un bon gros pain bien délicieux avec des petits légumes, des petits oignons, de la bonne viande locale. Et puis de la sauce blanche avec un petit peu de bleu, ce serait pas mal, je pense.
Pour moi, c'est avec de la viande de mouton, la sauce blanche, j'adore pas.
En général, quand j'achète du kebab, je demande un kebab galette et je leur demande qu'ils mettent que de la viande. Donc ils me roulent ça qu'avec de la viande. Et je prends sauce blanche avec un peu d'harissa. Je demande ça quand je prends mon kebab.
J'adore la harissa.
Moi aussi, j'aime bien.
Oui. Eh
ben, j'aime bien ça, moi aussi.
J'adore les kebabs.
Bah, j'ai plein de souvenirs de kebab parce que j'ai mangé beaucoup, beaucoup de kebab dans ma vie. Peut-être la chose la plus drôle qui m'est arrivée par rapport au kebab, c'est que j'ai rencontré une fille qui écrivait une thèse de doctorat sur les kebabs à Berlin. Et ça m'avait tellement fait rire qu'on puisse écrire une thèse sur ça, mais en réalité, c'était super intéressant.
Ça fait du bien d'être en nature.
Ouais. Ouais, on est bien là.
Du coup, ça c'est troupeau. Y a une cinquantaine de brebis. Comme vous voyez là, il y en a vraiment de plusieurs races différentes. Tu vois, il y en a qui ont des cornes, qui ont la laine plus longue que les autres, qui ont les taches noires. D'autres qui vont être très laineuses jusqu'en bas des pattes. Le bélier là, le gros noir là, ça c'est une autre race qui vient plutôt de la Haute-Loire. Moi vraiment, la démarche est d'avoir des bêtes très rustiques. Parce que l'idée, c'est qu'elle rentre pas, de ne pas les rentrer en bergerie, c'est qu'elle reste toute l'année dehors. En fait, rustique, c'est qu'elle résiste bien aux maladies, bien au climat. Parce qu'ici, le climat, il est très particulier, les chevilles, il fait vraiment très, très humide. Et là, l'hiver, par exemple, à 15h30, le soleil, il disparaît. Donc, voilà. Après, là, depuis quelques jours, là, vous pouvez voir, là, genre le gros qui a la tête noire avec la cloche, là-bas. Eh ben, j'ai mis les béliers, là, depuis une semaine, là. Donc là, c'est la période de lutte, comme on appelle. Donc là, c'est le moment où les béliers et les brebis se reproduisent pour avoir les bébés, en gros, 5 mois plus tard. Si on calcule les naissances, ça sera pour courant mars.
Comment se passe votre journée et vos activités à la ferme ?
En ce moment, mes journées, en gros, je me réveille le matin. Là, j'ai un agneau, celui qui est là, un peu plus gros. Lui, il est au biberon. Donc je prends mon petit déj, je fais le biberon, hop, je pars au troupeau, je lui donne le biberon, je donne un petit peu de céréales aux brebis pour qu'elles soient bien en forme pour pouvoir faire plein de bébés. Et puis après, j'agrandis les parcs. Donc j'agrandis, je sais pas, ça dépend de la quantité d'herbe qu'il y a selon les parcs, ça n'a vraiment rien à voir. Donc entre 1000 et 3000 m² par jour. Et voilà, après une fois que j'ai fait ça, ben soit j'ai des petites bricoles à faire sur la ferme ou de l'administratif. Donc je vais au bureau, je fais de la comptabilité. En fait, on fait beaucoup de papiers dans l'agriculture. Donc voilà, donc un grand temps d'administratif. Puis après, en milieu d'après-midi, je retourne au troupeau, je nourris les chiens, je retarde le plus possible, le plus tard possible pour donner le deuxième biberon à l'agneau. Et puis je redonne une petite dose de céréales aux brebis, toujours pour qu'elles soient en forme pour faire des bébés. Et puis voilà.
J'ai une question là. Vos brebis, est-ce que ça vous fait quelque chose quand vous l'emmenez à l'abattoir ?
Eh ben, ce qui me fait quelque chose, c'est au moment de les charger, ouais. Au moment de les charger, au moment où on décide du droit de vie ou de mort de celle-là ou celle-là ou celle-là. Là, c'est pas évident, du coup, c'est le moment où t'as un peu la boule au ventre et allez, c'est parti. Après, bon, une fois que c'est chargé, ben, c'est parti, le processus il est lancé et le choix est fait. Et voilà, après, c'est la continuité du travail, vu qu'en plus je cuisine ma production, ben voilà, le but il est là, quoi, c'est de produire de la bonne viande. Enfin, ce qui te tient à tout ça, bah, toutes celles-là, elles sont pas dédiées à mourir. L'idée c'est de les garder en vie et qu'elles me fassent des bébés.
Ouais, bah oui.
Donc c'est surtout de s'attacher aux mères et aux futurs agnelles, parce que moi je garde toutes les femelles et il n'y a que les mâles qui partent à l'abattoir. Elle, c'est Tali. C'est la première patou que j'ai eue. C'est la mère de Oursous, donc l'autre qui est là.
Elle se laisse beaucoup faire, non ?
Ouais, elle est super gentille, elle. Et quand je l'ai eue, elle, la particularité, c'est que bah, on me l'a donnée toute bébé avec les premières brebis que j'ai achetées. Sauf qu'elle était ni habituée au troupeau, ni habituée aux humains.
Ah.
Donc ça a été très très compliqué. Pendant les 6 premiers mois, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Vraiment, je savais vraiment pas quoi faire. Puis tu te poses des questions parce que des patous comme ça, eh ben, ils ont ça dans le sang quand même, le troupeau. Et si j'aurais pas réussi à l'adapter au troupeau, à l'habituer, et ben après c'est qu'est-ce que t'en fais de ce chien, parce qu'il est ni c'est ni un chien d'humain qui ni un chien de compagnie ni un chien de troupeau, donc du coup bon qu'est-ce qui va devenir, quoi.
Est-ce que vous avez eu déjà des attaques de loups?
Non. Il y a une meute de chaque côté, il y a une meute côté Cornouse, donc au-dessus de ces falaises, et une meute côté La Lirette, au-dessus de ces falaises aussi. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas de problème, puisque les loups, ils sont comme nous, en fait, pour se déplacer, ils préfèrent les bons chemins, les endroits pas trop accidentés, enfin, facile d'accès, quoi. Et tant qu'ils ont le choix de la nourriture, et qu'ils ont de la nourriture sur place, ben, ils restent sur leur territoire. Et là, l'année dernière, ça fait 2 ans que le loup a été vu ou entendu. Là, mon voisin, il m'a appelé 3-4 fois l'hiver dernier parce que le loup, il hurlait juste au-dessus, à 200 mètres au-dessus, là, ses fenêtres l'hiver. Du coup, comme je lui répondais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais pas monter la garde avec un fusil, j'ai des clôtures électriques, j'ai les deux chiens et je fais des petits parcs. Comme ça, les chiens, ils ont vraiment le contrôle sur tout le troupeau et ils voient tout ce qui se passe autour des brebis. Donc les brebis sont bien protégées comme ça. Et le loup, tant qu'il a de la nourriture facile d'accès, bah, il va pas aller se confronter à des patous. Il va pas venir chercher la bagarre. Donc là, l'année dernière, effectivement, et toutes les fois où il les a entendus, bah, ils ont trouvé plein de cadavres de chamois qui ont été mangés par le loup, juste au-dessus.
Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, le plus triste et le plus en colère dans votre métier ?
Le plus heureux, regarde, c'est quand on est là, comme ça, au troupeau, qu'elles sont bien en train de manger, qu'on a le petit soleil et le petit vent qui nous chatouille le visage. Tu vois, elles ont pas l'air malheureuses, les brebis, là.
Non.
Donc là, tout va bien. Donc là, ouais, là, tout pour être heureux. Le plus triste, l'exemple de cette épidémie, là, d'arriver au troupeau tous les matins, de pas savoir combien il va y avoir de nouvelles brebis qui auront été contaminées, combien de brebis qui seront mortes pendant la nuit. Vu qu'on n'avait pas de solution miracle pour les soigner, on passait notre temps à faire des tests de médicaments. Donc avec des plantes, avec des huiles essentielles, les vétérinaires avaient dit de mettre des antibiotiques et des anti-inflammatoires, mais ça ne sauvait pas du tout les brebis. Au contraire, ça, sur le long terme, ça avait plutôt tendance à les fatiguer et à les user.
Et pourquoi vous avez choisi d'élever des brebis dans le Vercors et pas ailleurs ?
Eh ben, parce que je suis pas très loin d'ici. Et j'ai essayé de partir plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi à partir parce qu'au final... On n'est pas mieux ailleurs, bien au contraire. Ici, on a tout, on a les rivières, on a les grands espaces, les beaux paysages, plein de gens sympas. J'ai un super réseau. Après, les brebis, bah, en fait, j'avais quelques moutons toute mon enfance à la maison. Et après, à 20 ans, j'ai eu l'occasion d'aller faire le berger dans Beldon. Et je suis parti, du coup, pendant un an suivre un troupeau et où il y avait 500 brebis. Donc 500 brebis, c'est-à-dire quasiment 1000 bêtes à la fin de l'agnelage. Donc brebis et agneaux confondus.
Ah oui, donc c'est beaucoup quoi.
C'est beaucoup. Il y avait 7 patous. Il y avait énormément de loups dans ce secteur-là. Et j'ai adoré ce métier-là en fait, de vivre à la vitesse des animaux, qui pleut, qui neige, qui vente. Voilà, le temps s'arrête en fait. Là, vous voyez les brebis qui sont venues vous voir, bah, c'est les brebis que j'ai depuis qui sont nées ici en fait. Donc, effectivement, il y a un lien. Il y a beaucoup de liens.
Tandis que
elle, c'est Paupiette. Avec la petite cloche dorée là. Bah, donc, non, il n'y a pas beaucoup. Il
okay.
Y a le petit bélier là que je te montrais tout à l'heure, lui c'est Primevert.
Donc ça c'est George et Weasley.
Oh non,
c'est Basil.
Tu connais pas Harry Potter?
Weasley,
si,
oui.
George et Fred.
George et Fred, Weasley.
Voilà.
Léo Weasley.
C'est les deux frères. On a 3 Vera et on a 12 truies.
Et c'est quoi des Vera?
Les Vera, c'est les mâles non castrés. Donc c'est les reproducteurs. C'est ceux qui font les bébés. Alors nous, on est en moyenne sur des portées de 10 porcelets, à peu près. Pas bien plus, et à peu près une fois par an pour les truies. Alors,
comment se passe votre journée avec vos activités quotidiennes?
Le matin, moi, je donne à manger aux cochons. Donc je fais le tour de tous les cochons, je regarde si tout le monde est en bonne santé. Donc ça c'est un peu toute la matinée que ça se passe comme ça. Après l'après-midi, on peut faire soit de la réfection de parc, donc regarder les parcs, changer des fils électriques, tout ça. Après on a aussi des jours quand on fait de la vente. On a aussi des jours où on transforme du coup dans le labo, donc on découpe la viande, on fait les saucisses, tout ça. Donc ça normalement c'est le mardi et le mercredi parce qu'on a le marché le jeudi à la chapelle. Donc voilà. Et après l'abattage c'est le lundi matin. Donc c'est à peu près ça sur tout. C'est à peu près ça sur toute la semaine. Quand on va au marché, on transforme un cochon. On transforme un cochon à peu près, sauf l'été où on transforme 2 cochons. Donc en kilos de viande, on va être à peu près à 100 kilos de viande, quoi.
Ça vous fait quoi de tuer vos cochons ?
Ah, très bonne question. Ah bah ça c'est triste. Ouais, ça c'est compliqué et on n'a pas encore la réponse. Ça fait partie de... C'est pas vraiment un travail, c'est... Nous, on voulait continuer à manger de la viande et que ceux qui mangent de la viande, ils puissent en manger où l'animal a été respecté, a été dans la forêt, a vécu normalement. C'est même pas bien ou quoi que ce soit, c'est normalement. Et donc, en fait, on élève les cochons comme ça pour que quand on mange la viande, on se dise que c'est pas pire. On peut en manger parce qu'on les a bien traités avant. Et du coup, quand on tue les cochons, du coup, nous, c'est le lundi matin... On les emmène à l'abattoir et c'est le jour où il ne faut pas trop me parler. Parce que du coup, c'est triste. Tu vois, c'est assez paradoxal comme métier parce qu'on s'occupe des animaux tout le temps. On les aime, etc. Là, il y a les chiens en jardin avec nous, mais les cochons, c'est pareil. Et en fait, on va quand même les tuer. Mais après, c'est pour les manger, pour qu'on vive. C'est un cycle naturel aussi.
Pourquoi vous avez choisi d'élever des cochons dans le Vercors et pas ailleurs dans la France?
C'est une bonne question, ça. Parce que déjà, on est attaché au Vercors. Je trouve que c'est un bel environnement. Donc, voilà. Après, nous, ce qui nous importait aussi, c'est qu'il y ait des températures pas trop chaudes, en fait, l'été, parce que le cochon supporte mal les températures élevées, en fait, parce que c'est un animal qui ne transpire pas. Donc le Vercors c'est très adapté par rapport à ça. Et en même temps le cochon ne craint pas le froid. Donc c'était aussi un bon point en fait pour faire de l'élevage de porc plein air. Et après aussi trouver des terrains qui soient en majorité boisés, du coup ce qui est adapté au cochon quoi. Okay. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ou le plus triste et le plus en colère dans votre métier ?
Alors, je dirais, tu vois, les trois choses, ça peut être vraiment les cochons, parce qu'en fait, c'est ce qui nous rend très heureux. C'est ce qui peut nous rendre très tristes aussi parfois quand on a un animal qui est malade et qui meurt, ça peut arriver. Et parfois qui nous énerve, c'est plutôt la difficulté du plein air, mais qu'on a choisi aussi parce que physiquement et mentalement, c'est un petit peu plus dur de travailler toute l'année à l'extérieur avec les conditions climatiques parfois, la fatigue. Mais bon, on a aussi... la chance d'être à l'extérieur tout le temps, donc peut nous énerver de temps en temps, mais c'est quelque chose de très chouette au quotidien de pouvoir travailler dehors.
Et ça fait combien de temps que vous travaillez à la ferme ?
On s'est installé il y a 4 ans.
Je peux l'avoir ?
Monsieur ?
Oui ?
Comment vous préparez le saucisson ?
Oh là, mais c'est recette secrète ça. C'est pas vrai, j'ai pas de secret moi. Saucisson, donc c'est de la viande de cochon. Alors ça se fait avec de l'âne, du bœuf, etc. Mais c'est que de la viande rouge qu'on appelle. Donc c'est sans gras. C'est que les muscles où il y a que du rouge, comme quand on mange un steak par exemple. Et pas. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, la poitrine, le lard, en fait, il y a du gras avec la viande. Et pour le saucisson, c'est que la viande rouge, donc comme le steak, qui est hachée. Donc, il y a du sel, du poivre, du vin rouge, un peu de sucre. Parce que du coup, pour plus tard, le sucre, il va servir pour avec les bactéries pour faire le séchage. On ajoute un peu de gras en dehors de la viande, en fait. On ne mélange pas le gras et la viande en même temps. On mélange d'abord la viande avec le vin rouge, le sel, etc. Et après, on met le gras dans cette préparation. Et après, on met dans le boyau du cochon et on les pend pour faire du saucisson. Ouais.
Et c'est vous qui le faites ?
Ouais, nous, on fait ça à la maison. Ouais, ouais. On a le labo de Transfo et voilà, le bâtiment blanc, là. Et en fait, voilà, on fait le saucisson, les saucisses, le pâté. Ouais, ouais. On fait tout. C'est pour ça, pour revenir sur le moment où on tuait les animaux, pour nous, c'est intéressant de travailler la viande après parce qu'on est responsable de ça. On a tué un animal, donc en fait, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et donc le faire à la maison, on fait tout et on valorise tout l'animal.
Côté de Rocherousse. Donc ici vous êtes sur une ferme qui a plus de 20 ans d'existence. Donc moi ça va faire 6 ans que je suis installé. On est 3 associés, donc 3 patrons, en gros. On est associés à 3. Du coup, on est en vache laitière, en production de vache laitière plus transformation fromagère. Donc, on fait différents types de fromages. On fait notamment l'AOP Bleu du Vercors, l'IGP Saint-Marcelin. Je pense que c'est des choses que vous connaissez, vous avez peut-être déjà mangé. Ensuite, on fait un type gruyère, une pâte pressée cuite. Et ensuite, on fait des yaourts, de la faisselle... Donc yaourt nature ou aromatisé, on diversifie un peu notre gamme parce qu'on est 100% en vente directe. Donc voilà, le but c'est d'essayer d'avoir une gamme de produits assez exhaustive pour pouvoir satisfaire les clients. On est en agriculture bio aussi depuis plus de 20 ans. Donc vous avez vu là sur le Vercors, il y a énormément de prairies. Donc nous on n'a pas, comme ce qu'on peut trouver plus dans la plaine vers chez vous, de type maïs en silage ou maïs grain, on fait beaucoup moins de céréales ici que ce qui peut se faire en bas parce qu'on a un climat qui est moins disponible et qui est moins prédominé à faire de la céréale et du maïs. Donc nous, sur la ferme, on fait notre propre foin et on fait quand même un peu de céréales. On fait une dizaine d'hectares de céréales pour faire notre propre farine. Vous verrez avec Adrien en bas, à quoi sert notre farine. Ça va notamment servir pour l'alimentation des veaux et des vaches. Pour la partie fromage, nous, on va transformer le lait. Donc, nous, on traite deux fois par jour, tous les jours, toute l'année. On va transformer environ entre de 400 jusqu'à 1000 litres de lait par jour.
1000 litres de lait.
Ouais, on monte jusqu'à 1000 litres, plus de 1000 litres de lait transformé.
Par jour ?
Par jour, ouais. Enfin, sur deux traites, la traite du soir et la traite du matin.
C'est beaucoup. Moi, j'ai une question. Vous avez que des vaches à lait ou vous avez aussi des vaches qui font pour la viande, tout ça ?
Alors, on a principalement que des vaches. Donc, les vaches, c'est que des vaches laitières. Par contre, on a des veaux qui partent pour faire de la viande. Nous, en fait, on va garder les femelles sur notre exploitation pour faire du lait. Ceci est ce qui nous intéresse. Et derrière, par contre, quand on a des mâles, où il y a certaines vaches, il faut forcément que les vaches elles aient fait un veau pour faire du lait. Donc, il y a certaines vaches qu'on veut juste garder comme ça. Et donc, on leur fait faire un veau qu'on dit croisé. Adrien vous expliquera tout à l'heure. Donc, c'est un croisement de race pour avoir un veau qui a un peu plus de développement musculaire, entre guillemets, pour que derrière, ça puisse partir faire de la viande de veau.
Par jour ?
20 litres par jour.
Oui, 20 litres. Donc, par 35 vaches, ça fait beaucoup de lait. Ça fait 700 litres tous les jours à transformer en fromage. Pardon ?
Vous stockez où le lait ?
Là, tu vois la remorque avec le tank ?
Oui.
Derrière la voiture, on le stocke dedans. Et après, tous les jours, deux fois par jour, on remonte le lait en fromagerie. On le transvase dans la cuve de fabrication. Si vous avez vu là ce qui brassait le lait caillé. Ouais. Et donc voilà, tous les jours on remonte le lait. Donc le matin on sort les vaches, elles vont pâturer. Mm-hmm. Et le soir on les ramène au bâtiment. Elles ont, en plus d'avoir pâturé, elles ont droit à un peu du foin. La particularité d'ici, c'est qu'on fait pas du foin, enfin on fait très peu de foin en botte. C'est du foin que en vrac, qu'on ramasse avec la machine justement qui est derrière. Et l'avantage de ça, c'est que c'est un foin qui est de meilleure qualité. Donc derrière, on retrouve du lait de meilleure qualité pour faire des fromages plus gras, plus fondants, plus enfin, meilleurs. Quoi.
Comme ceux qu'on a goûté.
Exactement, ouais. Exactement.
Ah, monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous tuez vos vaches pour la nourriture ou...
Alors nous, on les tue pas, on les garde pour faire du lait. Celui qui va tuer les vaches, c'est un monsieur, ce qu'on appelle un maquignon, qui vient acheter les animaux. Après, les emmène dans un abattoir et c'est là après qu'ils sont transformés, soit en steak haché. Ou...
C'est triste.
Ouais, c'est comme ça. On aimerait toutes les garder, mais malheureusement, il faudrait des bâtiments énormes. En sachant qu'on a 35 vaches, tous les ans, elles font au moins un bébé. Donc 35 vaches, plus l'année prochaine 70, puis après, voilà.
90, 100
millions. Ouais, c'est ça. Ils sont nés samedi et dimanche.
C'est samedi là ?
Ouais, c'est samedi. Donc ils ont même pas une semaine encore.
Ils sont tout petits.
Mais vous allez voir, c'est déjà très débrouillard.
Et du coup, notamment pour le yaourt, on va peut-être parler un peu du yaourt. Ce que j'ai compris, c'était la semaine sur le kebab, c'est ça ?
Exact.
Donc du coup, le yaourt, Pierrot et Jeanne, ils s'en servent pour. Donc au croquant, ils s'en servent pour faire la sauce blanche du kebab. Donc pour faire du yaourt, ce sera toujours la même chose. On va venir pasteuriser le lait. Donc on va le monter à une température de 82 degrés. On va venir ensuite ensemencer justement avec nos fameuses bactéries. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule sorte de bactéries dans nos yaourts. Dans le fromage, on a plusieurs sortes de bactéries parce qu'il y a des bactéries naturelles et il y a des bactéries qu'on va venir rajouter pour sécuriser la fabrication. Dans le yaourt, par contre, il faut qu'il n'y ait qu'une sorte de bactérie. C'est le Lactobacillus bulgaricus. C'est le nom latin, ça, de la bactérie. Donc, notre yaourt, une fois qu'on l'a monté à 82 degrés, justement, il y a 82 degrés, on a pasteurisé. Donc, on va dire, c'est comme si c'est une feuille blanche. C'est comme si vous prenez un carnet, vous avez une feuille blanche. Il faut réussir à mettre les bonnes couleurs dessus, les bons ferments. Donc, c'est pour ça qu'on va venir ensemencer. Ensuite, on va attendre environ une vingtaine de minutes, le temps qu'elles se développent. Parce qu'il faut savoir que les bactéries, elles doublent leur population. Donc, c'est beaucoup de physique-chimie, hein, mais elles doublent leur population toutes les 20 minutes. Donc c'est exponentiel. Donc c'est comme si vous, là, dans 20 minutes, vous êtes combien ? 2, 4, 6, 7. Dans 20 minutes, vous êtes 14. Après, vous êtes 28. Après, vous êtes 60. D'un coup, à chaque fois, vous faites x2. Et toutes les 20 minutes, elles doublent leur population. Donc ça va assez vite à coloniser le milieu. Et ensuite, on va venir mettre en pot. On va venir mettre en pot nos yaourts. Environ, ça va nous prendre une heure. Et ensuite, on va les laisser 3 heures en étuve, justement. 3 heures en étuve à cette même température de 45 degrés. Pour que les bactéries continuent à se développer. Et c'est elles qui vont faire la conservation de notre yaourt derrière. Voilà, et nous, après, on fait des yaourts aromatisés où, où derrière, on rajoute du sucre et des huiles essentielles ou des arômes pour aromatiser. Mais ceux-là, ils ne sont pas utilisables en cuisine, entre guillemets.
C'est comment on fait la sauce blanche?
Comment on fait la sauce blanche? Eh bien, la sauce blanche, ça, vous demanderez à Pierre et Jeanne, ce sera eux les experts. Mais la sauce blanche, c'est du yaourt nature. Ils vont utiliser du yaourt nature qu'ils vont venir brasser pour le rendre liquide. Et ensuite, derrière, après, ils vont rajouter différents ingrédients. Je crois qu'ils rajoutent un peu du citron, un peu des herbes aromatiques, des choses comme ça. Ils vont venir peut-être même le mélanger. Ils vont faire entre le yaourt et la faisselle. Des fois, ils le font plus avec du yaourt. Des fois, ils le font plus avec de la faisselle, qui est un petit peu plus acide. Je pense que là, on va la faire à la faisselle. Demain, vous allez cuisiner avec des faisselles. Et du coup, vous prenez de la faisselle. Vous allez voir, on va goûter une faisselle. Vous allez la brasser. Et derrière, ça va vous l'agrémenter. Ça fait votre sauce blanche. Quoi.
Ok. Avez-vous une histoire à raconter sur le kebab?
Eh ben, des histoires, il y en aurait plein, mais je pense que c'est un plat qui est populaire et qui, sur le Vercors, qu'on n'a pas l'habitude de manger, mais on a tous les ingrédients pour le faire, parce qu'on pourrait avoir de la farine, parce qu'on fait de la céréale, on a des agneaux ou de la viande de veau pour mettre dedans, on a des maraîchers pour faire les légumes, donc du coup, c'est cool que le croquant fasse des kebabs, parce que c'est des kebabs qui sont locaux, et donc voilà, après... C'est pas démocratisé sur le Vercors, mais c'est pas pour autant qu'un kebab du Vercors ne peut pas être bon.
Vous venez d'écouter un extrait du reportage « Le kebab est dans le pré » réalisé par 11 jeunes du Royan et du Vercors qui ont participé à un séjour proposé par Active Royan et Vertapop à la chapelle en Vercors. Merci à Basile, Jade, Daviol, Vittoria, Liv, Jules, Eva, Kimli, Eneko, Théane et Antoine, ainsi que Jérôme et Aurélie, leurs super animes. Les fermes visitées sont les Moutons de la Vernaison à Échevis, Verta Cochon à La Chapelle et Roche-Rousse à Saint-Martin en Vercors.